Bonjour mes frères et sœurs. Quelle grâce que de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Vous en êtes conscients? Lorsque Jésus enseigne le Notre Père, parce que les disciples avaient dit « Enseigne-nous à prier », pas « Enseigne-nous à faire des prières », « Enseigne-nous à nous approcher de Dieu ». Jésus va donner tout un canevas qui indique des priorités. La première, bien sûr, c'est la louange, ce qu'on vient de faire au travers des chants, au travers de des louanges individuelles, à savoir notre Père qui est aux cieux. C'est la vie. Lorsque Dieu devient notre Père, ça c'est pas tous les chrétiens qui peuvent dire notre Père. Vous le savez ça? Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau, qui peuvent appeler le Seigneur. Tout le monde peut dire Dieu, Tout-Puissant, mais il n'y a que les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui peuvent appeler Dieu notre Père. Notre Père qui est aux cieux, la première chose qu'il faut faire, c'est que le nom du Seigneur soit sanctifié, pour que la volonté de Dieu soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper à tous au niveau corporatif. Pourquoi? Parce qu'une assemblée locale a des plans et des projets prévus par Dieu, mais après, il y a toute la vie individuelle. C'est beau quand toute une église avance en même temps dans la volonté de Dieu et peut avancer dans des projets. Nous essayons de le faire. Mais après, il y a quand même, heureusement, que Dieu est juste. Il y a la bénédiction individuelle. Alors cette bénédiction, bien sûr, dépend de la façon dont on se consacre à Dieu. Romains chapitre 12 indique certains comportements qui permettent de discerner la volonté de Dieu. Car quand même, je suis sûr que si nous sommes ici, bien sûr, c'est pour participer à l'œuvre de Dieu. Nous apportons notre dîme pour contribuer à l'avancement du royaume. Nous exprimons notre reconnaissance. Nous jouissons vraiment de la communion fraternelle. C'est un bienfait d'avoir des frères et des sœurs, d'être dans un pays libre, comme plusieurs vous vous plaisez à le dire. Et à juste titre, ça doit réjouir Dieu que vous soyez reconnaissants. Mais quand même, je nous pose la question. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu es soucieux de discerner la volonté de Dieu? Quelqu'un pourrait dire à vite fait, oui, mais on est dans la volonté de Dieu, on est dans l'église, qu'est-ce que tu nous chantes? Écoutez-moi bien, on peut être dans une église et être très loin de Dieu. On peut chanter des cantiques et prêcher la parole, je sais de quoi je parle, et être loin du Seigneur. On pourra honorer Dieu des lèvres, et notre cœur peut être éloigné de lui. Je sais, je l'ai vécu. C'est écrit, bon, ça suffit. Mais je l'ai assez vécu pour savoir que ce n'est pas facile de prêcher l'évangile et d'être loin de Dieu en même temps. Dans Romains au chapitre 12, il y a un des seuls textes du Nouveau Testament d'ailleurs qui parle sur la consécration. Il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a que deux ou trois textes qui parlent de consécration. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Il aurait pu dire vos âmes, vos esprits, mais ça passe aussi par le corps. Il n'y a pas que l'âme et l'esprit. Notre corps aussi doit être sanctifié. Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Première condition. Deuxième condition. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je relis. Afin, donc c'est la conséquence, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on est sauvé, c'est bon. C'est bon d'être sauvé, non? C'est bon, c'est merveilleux d'être sauvé. C'est la première étape. Un chrétien qui est dans les ténèbres, qui comprend ce que Jésus a fait au calvaire et qui rentre par la croix, oui, c'est bon, ça ne peut pas être mauvais. Mais il n'y a pas que cette dimension, il y a ce qui est agréable et ce qui est parfait, car il y a quand même un perfectionnement atteignable. Beaucoup de chrétiens ne s'en soucient pas parce qu'ils se contentent de rester des enfants, de rester dans le cadre de la grâce, dans le cadre du salut, mais ne sont pas soucieux de faire la volonté de Dieu. Et je crois quand même que nous serions vraiment intelligents si nous nous appliquions à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Voyez, l'autre jour, je discutais avec une jeune fille de l'église. Écoutez bien, vous n'allez peut-être pas tous comprendre, mais comprenez. Je discutais avec une jeune fille, et je ne sais pas si ça vient de moi, mais je pense que ça vient du Seigneur. Cette jeune fille, elle a le souci d'apprendre. Et j'ai compris pourquoi. Parce que dans quelques années, elle va se retrouver dans une église, écoutez bien, où il n'y aura pas d'hommes. Pour vous dire comment ça s'arrange. Et cette jeune fille devra partager la parole simplement. Parce qu'il n'y aura pas d'hommes là où Dieu va l'envoyer, il n'y aura que des femmes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, moi je vous dis une chose. C'est que vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Et qu'il faut s'appliquer à discerner la volonté de Dieu. Les gens, ils sont accaparés. Alors, béni soit le Seigneur pour ce petit cœur qu'on a chanté doucement, parce qu'il vit. Vous le croyez, ce cantique, qui résume très, 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 très bien l'évangile? Vous le croyez, ce cantique? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Vous le croyez? C'est un petit cœur qui résume très, très bien notre marche avec Dieu. Mais les chrétiens, aujourd'hui, ont peur. Il y a des chrétiens qui ont peur du lendemain, alors que le Seigneur s'est engagé en disant, n'ayez pas peur du lendemain. Je prendrai soin de vous. Le lendemain aura soin de lui-même. Et nous allons voir les choses empirer, nous allons voir l'apostasie s'immerger de plus en plus dans les églises. Nous savons qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce sont des prophéties, ce n'est pas des balivernes, ce n'est pas des suppositions. Ce sont des prophéties. Donc ça arrive. Nous savons qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous savons toutes ces choses. Nous savons que comme du temps de Noé, la terre sera remplie de violence et de corruption. Vous avez vu au plus haut sommet de l'ENTA comment c'est corrompu. Vous avez vu, c'est minable. Je ne juge personne, mais c'est abominable. Du temps de Noé, la terre était remplie de violence et de corruption. C'est écrit ou c'est pas écrit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il en sera de même. Alors, c'est sûr que nous, ça nous fait de la peine. Mais nous n'allons pas nous laisser aspirer par cette vague de misère, de péché. Un chrétien, il peut vivre dans la victoire. Et Dieu veut que nous vivions dans la victoire. La volonté de Dieu, elle est bonne. Et ça passe justement par la compréhension de certaines choses que l'on va aborder ce matin avant de prendre le pain et le vin, avant de sortir de cette église. Mais qui n'a pas envie de dire, mais Seigneur, s'il y a quelque chose encore que je ne discerne pas. Vous voyez, quand il est dit, le renouvellement de l'intelligence, c'est les fils de... Comment ils s'appelaient ces fils? Ces fils qui avaient l'intelligence des temps. Fils d'Isaacar. Il nous a dit, ils avaient l'intelligence des temps. Vous croyez qu'ils étaient meilleurs que les autres? Non, ils avaient décidé de prier Dieu comme Daniel. Et Dieu les avait éclairés. Et si Dieu nous propose d'avoir du discernement, le don du discernement, c'est justement, moi je bénis Dieu que cette jeune fille dont je parlais tout à l'heure vienne à la réunion de formation des anciens, des diacres, des responsables, etc. Pourquoi? Ben parce qu'elle sera prête. Elle ne se contente pas de ce qui est bon, elle veut ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors pour aspirer à ce qui est parfait, il y a quand même une condition. Alors on va la lire, On poursuivra certainement mardi, parce que ce n'est pas une exhortation que l'on va expliquer toutes ces affaires. Dans l'épître de Jacques au chapitre 3, il y a une dimension sur la bénédiction et la malédiction. D'ailleurs, c'est le titre de ma prédication. Est-ce que je suis une source de bénédiction ou est-ce que je suis une source de malédiction, c'est-à-dire du mal? Jacques chapitre 3. Lisons-le, vous connaissez ce texte, mais ça ne fait rien. Relisons-le. Jacques chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez comme quoi la perfection, ça se résume au niveau de notre bouche, de notre corps, de notre langue, de nos lèvres. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que réellement je veux être? Je veux rester dans ce qui est bon ou est-ce que je veux avancer dans ce qui est agréable à Dieu et même dans ce qui est parfait? Aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques. Nous, le christianisme, ce milliard de chrétiens sur la terre, toute dénomination croyante confondue, célèbre la Pâque. Certains y croient, certains n'y croient même pas. Jésus-Christ est venu. Il est venu, le Dieu du ciel est venu en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et avant de remonter au ciel, il a dit que tout pouvoir lui avait été donné. Et que si Dieu nous a donné son Fils sur la croix, à combien plus forte raison ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus l'a dit sous maintes formes, « Je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Le Seigneur, il nous donne pas que la vie spirituelle avec un grand V et les choses éternelles. Bien sûr que ça nous suffit. Franchement, si on vous disait aujourd'hui, ben voilà, il te reste tant d'années à vivre, ça va pas être facile, voilà, ça va pas toujours être évident, mais t'inquiète pas, tu as l'éternité pour être heureux. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Ben oui, c'est sûr. Mais quand même, soyons intelligents. Est-ce que ça vaut pas la peine sur la terre, le temps qu'il nous reste à vivre, d'être une source de bénédiction? Est-ce que c'est important pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, de dire oui, je veux être une source de bénédiction? Et quand même, je ne sais pas si on a la possibilité de se poser la question fraternellement. Est-ce que mon frère, puis si on ne vous connaît pas, ça ne sert à rien, bien sûr. Mais ces gens qui vous connaissent, est-ce que vous pouvez leur dire, est-ce que d'après toi, je suis une source de bénédiction ou une source de problème? Est-ce qu'on a cette liberté? Comment vous réagiriez? Comment je réagirais si vous me disiez, mais t'as un problème, Gérard. Tu fais que des problèmes. Ça serait temps que vous me le disiez quand même. Mais est-ce que ça me rendrait service? Eh bien oui. Et des fois, il y a des gens qui sont tellement mal qu'on n'oserait pas leur dire, écoute, ça va pas. Comment ça va pas? Et tu t'es vu, toi? Oui ou non? Est-ce que j'exagère? Ben oui. Parce qu'on n'est pas droit devant Dieu. Si ça va pas, ça va pas. Mais qu'est-ce que je vais... Vous rappelez Ésaü? Vous rappelez le témoignage d'Ésaü? Quand il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait parmi vous ni profane. Profane, qu'est-ce que ça veut dire profane? Ben, ça veut dire mélanger. Mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. Ésaü, lui, pourtant, c'était, il y avait papa et pépé, c'était des gens bien, moi je vous le dis. Et pourtant, il a, à cause d'un plat de lentilles, à cause d'un bienfait temporel, il a perdu son droit d'aînesse. Et quand il a voulu avoir la bénédiction, c'était trop tard. Et que de chrétiens se rendront compte sur leur lit de mort, ou 3 secondes après être passés dans l'éternité, que c'est trop tard. J'aurais pu être une source de bénédiction, j'aurais pu amener la grâce sur les gens, communiquer la grâce, j'aurais pu communiquer la paix. C'est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et quand même, nous devrions de dire, mais quel dommage quand on voit le témoignage d'Ésaü. Il a voulu la bénédiction, mais c'était trop tard. Pour des choses mondaines, pour un plat de lentilles, parce que quand monsieur est rentré de la chasse, il a cru qu'il allait mourir, parce qu'il était fatigué. Vous savez, oh, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. C'est bizarre comme un tout de coup. On est fatigué. C'est pas vrai ça pour... Des fois, pour faire les choses de Dieu, on est fatigué. Pour aller faire un jogging, on n'est pas fatigué. Pour prier demi-heure, on est fatigué. J'exagère ou j'exagère pas? Pour regarder un film, 2 heures. Ouais. Pour lire la Bible, le temps que Dieu me parle, je suis fatigué. C'est écrit, veillez. À ce qu'il n'y ait parmi nous aucun profane qui méprise la parole. Dès que le Seigneur nous montre quelque chose, on devrait de suite dire, mais je le note, je c'est pour moi, il faut que je m'accapare cette affaire. Moi j'ai vu des personnes, quand on leur disait, tu sais, si tu veux maigrir, il te faut prendre du citron avec qu'est-ce que c'est comme citron? Vite, noter le citron, la recette, etc. Mais quand Dieu nous parle, est-ce qu'on a ce réflexe de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui empêche que je sois une source de bénédiction? Car que je vous le dis, la bénédiction, elle est personnelle, elle est individuelle. Tant mieux si elle y est, si elle est collective, mais je peux vous dire que c'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. C'est Dieu qui bénit. Toute grâce excellente. Alors là, on n'est même pas dans la grâce, vous voyez, de le pain de chaque jour, qui, bon, c'est déjà pas mal. Le toit, tout ça, c'est l'eau, c'est des grâces. Mais toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Et ne nous trompons pas par de faux raisonnements en pensant, si je ne suis pas béni, c'est à cause de lui, il n'est pas gentil avec moi. Vous vous rappelez la dernière fois quand on a parlé de Jacob. Jacob, il pensait que son problème c'était Ésaü, mais quand on lit bien le texte, le problème c'était pas Ésaü, son problème c'était qu'il luttait avec Dieu. La preuve, c'est que quand il a gagné, Ésaü n'a plus lutté avec lui. Comme quoi, ça sert à rien de lutter contre la chair et le sang. Et quand on en est à ce niveau où on dit, mais quand même, je veux discerner la volonté de Dieu, c'est pas normal que il y a 10 ans que je suis converti, j'ai fait aucun progrès. Ça fait 20 ans que je suis converti, j'ai toujours mon sale caractère. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qu'on pourrait régler. Comment? Eh bien, en obéissant à ces injonctions qu'on va partager ce soir, et Dieu voulant, mardi soir. Il y a pourquoi des hommes comme Ésaü ont été maudits. C'est-à-dire, le maudire, ça veut dire le mal. Ont vécu le mal. Et pourquoi des hommes comme Abraham, pourtant ils ont été éprouvés. Est-ce qu'Abraham a été éprouvé? Est-ce que Joseph a été éprouvé? Est-ce que Joseph a 17 ans en plus, c'était pas un grand gaillard, il avait que 17 ans, c'est quand même l'adolescence, 17 ans. Il n'a pas été éprouvé quand il a été bastonné, quand on l'a jeté dans une fosse, quand on l'a vendu comme un animal et qu'il s'est retrouvé dans un pays étranger. Écoutez-moi, je peux vous dire que ce n'était pas facile. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de lui? Que quand il était en prison, L'Éternel était avec lui. Et même les gens qui ne connaissaient pas Dieu voyaient que Dieu était avec lui. Quand Abraham a été mis à l'épreuve, comment l'épreuve? Vous connaissez Genèse 22. J'aimerais quand même qu'on lise un verset. Dans Genèse 22, il est mis à l'épreuve. Parce qu'on est tous mis, parce que pour grandir, il faut être béni, c'est clair, on a besoin de bénédiction, mais on a besoin d'être éprouvé. Mes frères et sœurs, si vous voulez grandir avec Dieu, acceptez toutes les épreuves, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Genèse 22. C'est extraordinaire quand on voit cette cohésion spirituelle, la bénédiction et l'épreuve, la bénédiction et l'épreuve. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. J'ai envie de dire une fois de plus. Et là, c'était quand même l'épreuve. Vous connaissez cette épreuve. Au verset 3. Abraham, trois mois après. Non. Abraham se leva de bon matin. Ça veut dire que le lendemain. Pourtant, avec ce que Dieu lui avait demandé, est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre trois mois de réflexion? Soyons honnêtes. Dieu vous demande quelque chose de très difficile. Est-ce que vous accableriez quelqu'un parce qu'il vous demanderait un mois de réflexion? Oui ou non? Bien sûr que non. Mais Abraham connaissait Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous pouvez obéir de suite. De bon matin, il scella son âne, etc. Il va obéir. Et regardez la parole de Dieu. La première fois où Dieu utilise cette expression dans la Bible. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même. » C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de lire. Là, on n'est pas dans les suppositions. Là. « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai parce que tu as obéi. » La bénédiction, elle est incontournablement liée à cette affaire d'obéissance joyeuse. Attention, l'obéissance. Que l'obéissance ne soit pas intéressée, ou je veux dire légaliste, je prie parce qu'il faut prier, et tu as lu ta Bible, et tu as fait ci, et tu as fait ça. Moi, je sais, pendant des années, j'ai fatigué mes enfants. Je voulais tellement qu'ils se convertissent que je pensais qu'en leur mettant la pression, ça allait marcher. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe jamais comme on veut, d'ailleurs. Je te bénirai parce que tu as obéi. Et je pense qu'on devrait tous savoir qu'est-ce qui empêche la bénédiction. Cette bénédiction individuelle, et j'y tiens vraiment. Et Dieu y tient aussi, parce qu'on voit bien que dans toutes les lettres aux églises, Dieu parle à tous les chrétiens, et pourtant il termine avec cette parole, à celui qui vaincra. Donc on voit bien, c'est personnel. Est-ce que tu veux être un vainqueur? Est-ce que tu veux être une source de bénédiction ou une source de malédiction? Tout le temps en train de fatiguer les autres, tout le temps en train de faire du mal aux autres. Et souvent le pire, c'est que ce sont nos proches qui trinquent. Et on devrait, franchement, je ne crois pas possible que si un homme, quel qu'il soit, quel que soit son éloignement ou son approche de Dieu, j'en suis convaincu, c'est pas grave. S'il y a cette démarche, s'il y a cette vraie démarche, Seigneur, je te demande de m'éclairer. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Ça ne peut pas en être autrement. Parce que le problème, c'est ça, c'est que le monde devient religieux. Je l'ai déjà dit, mais ça devient un problème. Si ça vient de Dieu, cette jeune fille qui va se retrouver dans 2 ou 3 ans dans une église où il n'y aura pas d'homme, franchement, qu'est-ce que ça vous fait? Vous dites, si c'est moi qui me trompe, tant mieux, c'est très bien. Mais si c'est vrai, vous ne trouvez pas que c'est déplorable? Mais Dieu est tout puissant. Et cette fille, parce qu'elle sera dans la victoire, elle sera une source de bénédiction. C'est sérieux. Nous, je ne sais pas si on y croit tout ça, si on anticipe. Je ne sais pas si vous préparez l'église de vos enfants. Ou vous dites moi après moi, oui, je m'en sais, qui se débrouille. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. Le Seigneur, il n'a pas dit, eh bien, ils sont comme ça, c'est leur problème. Le Seigneur, il est venu pour nous. Moi, ça me bouleverse que le Seigneur du ciel et de la terre soit mort sur la croix pour moi. C'est Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alors, il faudrait quand même qu'on se dise, mais Seigneur, dirige-moi dans mes lectures quotidiennes. Tiens, hier, je priais par rapport à cette exhortation. Et par exemple, je connais les textes, je les connais. Et j'ai pensé au psaume 50. Méditez-le, notez-le. Notez le psaume 50, vous le notez, vous dites, tiens, je vais méditer pendant un mois s'il faut. Pourquoi dans ce psaume où on voit que Dieu parle, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Il veut parler. Dieu aime te parler. Par sa parole, la foi doit grandir, cette confiance doit se maintenir. Joseph, il n'avait pas la parole de Dieu, il n'avait rien, il n'avait aucun livre, il était dans un pays étranger, mais il avait la crainte de Dieu. Il n'avait pas. Nous, on a le privilège d'avoir des bouquins, des concordances, des dictionnaires, la Bible en entier, etc. On est privilégiés. Mais n'oubliez pas ces gens. Et pourtant, ils avaient la crainte de Dieu. Bien sûr que Dieu leur faisait grâce, un peu plus peut-être, compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas tous ces moyens de grâce que nous on a. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons, tiens, le psaume 50, Dieu se tait. Pourquoi Dieu se tait? Pourquoi Dieu? Alors Dieu, on va y aller. Mais vous le méditerez. Je tiens à ce que vous le fassiez vous-même. Souvent, on dissèque trop les steaks. On en fait des steaks hachés. Vous voyez les prédications? Des fois, on est tellement obligé de tout expliquer qu'à la place de donner un steak, des frites, tout ce qui va avec, eh bien, on est obligé de donner un steak haché. Alors moi, je vous donne un steak. Psaume 50. On voit bien, c'est un psaume que nous devons le méditer. Dieu, l'Éternel, parle. Il parle. Vous le croyez? Il parle au verset 7, il dit « Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. » etc. Et puis, on voit au verset, on va lire que ce qui nous intéresse en fin de compte. Verset 19. « Tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu fais? Et je me suis tu. » Voilà. On voit dans ce... Vous le méditerez, mais longuement. Et vous voyez que Dieu veut parler, Dieu veut vous encourager, Dieu vous exhorter, Dieu vous reprendre. Qu'importe. Ce que Dieu a à nous dire est toujours bon. Et Dieu est obligé de se taire. Pourquoi? Parce que nous n'offrons pas nos bouches à Dieu. La Bible parle souvent de la bouche, de la langue, des lèvres, le corps, ce petit membre tellement difficile à dompter. Et nous devons, après c'est sûr qu'il y a des situations qu'il faut évoquer, jeudi soir nous évoquerons le problème de la discipline dans l'Église, et vous verrez qu'il est demandé de juger selon la justice. S'il y a du péché dans l'Église et que les anciens soient au courant, il faut le régler. Quand le problème à Corinthe, quand on a appris qu'il y avait un gars qui couchait avec sa belle-mère, vous connaissez cette affaire. Mais bien sûr que nous, on voit le problème qui n'a pas été réglé. Mais quand vous lisez à la dixième fois, vous voyez que Dieu est réprimande sur tous les anciens de l'Église de ne pas avoir réglé le problème. Frérité, il n'y a pas un péché, il y en a deux. Le péché en soi et le fait qu'on ne l'ait pas réglé. Donc il est clair que l'on doit aborder certaines situations et quand on voit des situations, il faut en parler d'une manière sérieuse pour l'édification de l'Église, etc. etc. Ça, ce n'est pas jugé. Mais il y a des situations qu'on ne maîtrise pas. Et il faut absolument veiller. Dieu dit, tu parles contre ton frère, eh bien moi je me tais. Et ça vaut la peine peut-être de s'arrêter sur tous les textes où on voit bien que ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner. Ah bon? Il y a des gens qui jeûnent, mais ils font le régime, c'est tout. Il y a des gens qui prient, ça ne sert à rien. Est-ce que Dieu l'a déjà dit? Quand tu multiplies les prières, je n'écoute pas. Voici comment vous devez prier, voici comment vous devez jeûner. Vous connaissez le véritable jeûne, Ésaïe 58. C'est un chapitre qu'il est certainement utile de méditer. Et Dieu, on voit, on y va. Vous le méditerez aussi, mais méditez les chapitres. Vous savez, moi, il m'a fallu du temps pour les méditer. Je n'ai pas tout compris, même quand j'étais pasteur, je n'ai pas tout compris, croyez-moi, au début. Dans Ésaïe 58, en plus, Dieu nous fait cette grâce d'avoir... L'enseignement, la signification, c'est vraiment un moyen de grâce. C'est un moyen de grâce extraordinaire, la méditation de la parole de Dieu. Vous en êtes convaincus? Il y en a trois qui sont convaincus. Est-ce que vous croyez que c'est un moyen de grâce, la parole? Oui, Ésaïe 58 parle de... En plus, on voit qu'il y a un problème grave, parce qu'au verset 3, verset 2, on voit qu'il y a une certaine soif, enfin oui, une pseudo-soif. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Oui, tu te dis, bon, mais ça va marcher. Comme une nation... Ah, là, on commence à voir que ça va pas. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu? Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Tu dis, bon, ça repart bien, ça va marcher. Après, ils sont dans un mauvais état d'esprit. À quoi ça sert de jeûner? Vous voyez? Les gens qui contestent avec Dieu. Ils sont bénis, les gens qui contestent avec Dieu. Il n'y a pas un verset qui dit malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. Les gens qui sont tout le temps en train de parler contre Dieu. L'autre jour, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a appelé 5 ou 6 fois en un mois. Et au bout de la 6e fois, je dis, mais je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Vous parlez exactement comme les païens. Exactement comme les païens. Ouais, à quoi ça sert? Je ne comprends pas. Et pourquoi Dieu ne fait pas ci? J'ai dit, mais vous croyez que Dieu s'amuse? Et voyez, à quoi ça sert de jeûner, etc. Mais le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous connaissez le texte. Vous traitez durement vos mercenaires. Si vous êtes patron, faites attention à la façon dont vous traitez vos employés. Ce n'est pas parce que vous êtes patron que vous pouvez vous autoriser à prendre vos employés pour du bétail. Moi, j'ai connu des patrons chrétiens qui étaient mais vraiment minables. Ce n'est pas parce qu'on paye des gens qu'il faut les prendre pour des moins que rien. Et ouais, voyez. Vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 6. Le jeûne auquel je prends plaisir, voyez, ce qui est bon, agréable et parfait. Le vrai jeûne, ça commence par une attitude de cœur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Voyez, mes frères, commencez à être une bénédiction pour les autres. La méchanceté, mais c'est terrible la méchanceté. Vous avez vu que le livre des Proverbes pourrait se résumer en, moi je pourrais donner comme titre au livre des Proverbes, la différence entre le juste et le méchant. C'est-à-dire entre le chrétien qui obéit et le chrétien qui fait du cinéma. C'est tout ça le livre des Proverbes. Et nous devrions absolument avoir le souci de rendre un bon témoignage. L'autre jour, j'ai pu rendre témoignage à une dame. Ah, monsieur Gou, me dit, c'est la deuxième fois que je le voyais. Ah, vous êtes pasteur? Eh bien, vous savez, j'ai lu sur Internet qu'il y avait un homme religieux qui avait comment on appelle, détourné 5 000 euros chez une dame pour s'acheter une Mercedes. C'est ça, les hommes de Dieu? J'ai dit, écoutez, madame, il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas la foi. Et il y a des gens qui croient en Dieu et qui ont la foi. Et j'ai pu lui parler des gens qui scandalisent. Jésus a dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et lorsqu'on ne veille pas et qu'on devient méchant, eh bien on finit par scandaliser les gens. Et nous, je vous l'ai déjà dit, c'est une parenthèse, mais nous ne devrions pas trop nous occuper du salut des pécheurs. Écoutez bien ce que je dis. Nous devrions nous occuper de la sainteté de l'Église. Et je peux vous dire que le salut des pécheurs, ça se fera. Parce que quand une église est sanctifiée, c'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher les pécheurs. Et nous, on est là, obsédés, il faut que des gens soient sauvés, faire de l'évangélisation. Je suis d'accord. Mais mes frères et sœurs, avant de faire de l'évangélisation, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dans mes paroles. Moi, j'ai pas envie de passer un jour devant le Seigneur Jésus et qu'il me dise, Gérard, tu as prié pour rien. Je passais tant d'heures à genoux. Pour rien? Oui, tu as prié pour rien. Vous avez envie d'entendre ça quand vous passerez devant Dieu? Mais c'est ce qui va arriver pour des millions de gens. J'espère que je me trompe. Il y a des gens, ils prient pour rien. Ils le disent, mais ne priez pas comme les hypocrites. Ne priez pas comme les païens. Il y a des chrétiens, c'est de vrais païens. Parce qu'ils sont méchants. Nous devrions quand même nous appliquer. Je ne sais pas, moi, entre nous, dans nos familles, au moins en famille. Est-ce que dans la famille, je ne sais pas comment vous voyez votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Est-ce que c'est un privilège d'avoir des enfants, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est un privilège d'avoir des gens qu'on aime? Moi j'aimerais. Certains l'ont fait. Dans ma famille, ils s'en sont occupés. Mais dans l'église, c'est déjà arrivé. Que des frères, des anciens me reprennent. Moi, ça m'a fait du bien. Parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et moi, j'ai envie, quand je passerai devant mon Seigneur, d'entendre, de m'entendre dire, sur la terre, tu as fait ce choix d'être une source de bénédiction. Alors plutôt que de jeûner, parce qu'il y a des gens, ils jeûnent, ils prient, et ils sont tout le temps en train de critiquer. La bouche, pour que les prières soient exaucées, il faut qu'elles soient une source de bénédiction. Après, que nous évaluions des comportements, c'est une chose. Moi, je ne me sens pas repris quand dans l'église, je juge le péché, parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Est-ce que c'était demandé aux, est-ce que c'est demandé aux anciens, aux pasteurs, de juger le péché dans l'église ? Est-ce que c'est écrit ? Oui, de le faire, bien sûr, avec en ayant les tenants et les aboutissants, etc. Mais mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde cette grâce d'être intelligent. Seigneur, je veux discerner la volonté de Dieu. Je veux être béni jusqu'à la fin. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça ne vous fait pas peur, cette prophétie ? Ça fait peur. Quand on est honnête, on se dit quand même, c'est qui a dit ça ? C'est le Seigneur Jésus. À cause de l'iniquité, l'apostasie rentrée dans les églises. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont dirigées par des gens qui ne sont pas convertis. Je comprends pourquoi des pasteurs démissionnent. Je comprends. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous êtes pasteur, que vous avez dans un conseil d'administration la moitié des frères ou des sœurs qui ne sont même pas nés de nouveau. Je ne vous dis pas l'ambiance. Dans une église, on veille à discerner la volonté de Dieu. Mais comment ? Mais c'est en plus, vous voyez, je vous ai pris le psaume 58, mais demandez à quelqu'un, moi je sais qu'ils le font, parce que je leur ai demandé, ils le font sans trop d'efforts. Papa, ça ne va pas. Chérie, tu es fatigué. Mais moi je bénis Dieu pour mes enfants, qui ont eu le courage de me dire ce qu'ils avaient à me dire. Acceptez que vos enfants vous disent les choses. Ah non, c'est des gosses, ce n'est pas eux qui commandent. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que les enfants commandent. C'est être à l'écoute, de choses qui sont peut-être utiles. Et vraies. Est-ce que nous voulons vraiment que cette ville soit bénie par une église qui soit vraiment bénie ? Est-ce que c'est important pour vous que dans Toulouse, il y ait des églises bénies ? Est-ce que c'est important pour vous ? Dieu nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a mis là. C'est le Seigneur. Ne croyez pas que c'est le hasard. Si ce matin, tu es là, mon frère, si je suis là, si nous sommes là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et dans cet effet de la grâce de Dieu, il doit se projeter en bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Et on le voit quand Dieu parle de certains chrétiens, mais ce sont des enfants de malédiction. Combien de fois Dieu va dire, mais malheur à l'homme qui conteste avec son créateur, malheur à l'homme qui méprise son père ou sa mère. Est-ce que c'est écrit ça ? Non, mais je ne la méprise pas. Oui, tu ne la méprises pas, tu as vu comment tu parles de ton père ? Les jeunes là, vous pouvez aller en enfer parce que la bénédiction de Dieu vous sera enlevée, ne vous sera pas donnée, parce que vous parlez mal de votre mère. Et j'aurais préféré naître dans un foyer pas chrétien. Ma mère, elle me fatigue. Vous n'utilisez pas ce mot, je sais. Il est un peu plus familier. Mais ma mère, elle me fatigue. Oh, si j'avais pu naître dans un foyer pas chrétien. Jeune homme, jeune fille, si tu es né dans un foyer chrétien, bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Tu entends ? Jeune homme, jeune fille, adolescent, si tu es né dans un foyer chrétien, bénis Dieu. Moi, j'aurais aimé naître dans un foyer chrétien. C'est une grâce. Malheur à l'homme qui conteste. Maudit soit l'homme. C'est écrit, vous le savez, je les ai en tête, mais je ne vous donne pas les références. Malheur à l'homme. Maudit soit l'homme qui conteste, qui méprise. Le mépris, c'est même pas maudire, là, c'est mépriser. C'est vrai, mon père, il vieillit. Ma mère, elle est fatiguée. Des fois, elle radote un peu. Est-ce que ça peut arriver qu'un papa radote ou qu'il dise toujours les mêmes choses ? Allez, est-ce que c'est pas vrai ? Il m'énerve. Il répète toujours pareil. mais c'est mon père, je l'aime. Et je prie pour lui. Seigneur, bénis mon papa, bénis ma maman. Si vous les avez, bénissez Dieu. C'est important de savoir, mais qu'est-ce que c'est qui amène la bénédiction? Regardez, Abraham, il a obéi de suite. Si Dieu vous demande quelque chose, faites-le, n'attendez pas, parce que vous savez, le diable, il est fort. Si vous le demandez, faites-le de suite. C'est vrai, tu me montres que je suis en conflit avec tel frère. Oh, je ne sais pas trop, mais c'est pas grave, dans le doute. Eh bien, dans le doute, tu écris, je te demande pardon. On devrait savoir ce qui attriste le Saint-Esprit, oui ou non? Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, je veux l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, Seigneur, je veux être un homme comme Josué, comme Caleb, un peu plus, mais... Attendez, commençons par le début. C'est comme quand Jésus dit que celui qui croit en lui, il fera les œuvres plus grandes. Mais commençons peut-être quand même par un peu de jugeote et à commencer par les petites. Parce que je crois quand même que pour que Dieu nous donne de faire des grandes œuvres, il faut quand même commencer par les petites. Ça ne marche pas à l'inverse. Même si le royaume de Dieu est surnaturel, ça marche dans le bon sens aussi. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit? Où c'est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit » Où c'est écrit, Nicolas? Où c'est écrit? Combien? Tu feras un an de plus ici. Éphésiens 4, 30. Ça fait 26 ans de plus ici. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On devrait, mais ce sont des textes qu'on devrait maîtriser. Papa, tant pis si on ne connaît pas là. C'est déjà bien de savoir que c'est dans les Éphésiens. C'est bien, tu vois, que 6 mois de plus. Mais mes frères et sœurs, on devrait savoir, ça devrait nous préoccuper. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Eh bien, c'est écrit. C'est toujours. Vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Ça ne peut pas être plus simple. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez comme quoi on peut attrister le Saint-Esprit? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est des chrétiens, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que c'est qui attriste le Saint-Esprit? L'amertume. De l'amertume. Est-ce que je peux avoir de l'amertume? Alors, soyons honnêtes. Est-ce que j'ai le droit d'avoir de l'amertume? Je me suis fâché, j'ai été contrarié. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'amertume? Et bien sûr, ne jouons pas les hypocrites. Mais il y a une différence à avoir de l'amertume un quart d'heure. Jusqu'au combien de temps on se donne? Une journée. Ça arrive d'avoir la boule au ventre des fois. Ben ouais, soyons pas des hypocrites. Des fois, il faut du temps pour digérer quand même. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on commence à avoir de l'amertume ou de l'animosité, il m'énerve. Toute colère. La colère, c'est un piège du diable, ça. Pourtant, au-dessus, il est bien dit, voyez, verset 26. Voyez, si vous vous mettez en colère, on perçoit bien que Dieu permet une certaine condescendance par rapport à la colère. Est-ce que ça peut arriver de se mettre en colère? Oui, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, Seigneur, pardon, je te demande pardon, je t'ai mal parlé. C'est fini. Mais lorsqu'on laisse la colère et lorsqu'on laisse le soleil se coucher sur la colère, parce que là-dedans, ça travaille. Là-dedans, vous ne trouvez pas que des fois, ça travaille vite? Ne donnez pas accès au diable. Et on attriste le Saint-Esprit et on s'étonne, j'ai plus de joie, j'ai plus de paix. Parce que la source de bénédiction, ça m'étonnerait qu'elle soit en défaillance de paix, de joie, de grâce et de miséricorde. Ce n'est pas possible. Mais où je suis un enfant de bénédiction, et parce que, et oui, moi j'ai eu de l'amertume, j'ai prêché de l'amertume. Je vous l'ai déjà dit, on ne va pas y revenir, pas ici. J'ai prêché de l'amertume, j'étais furieux. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis content de l'avoir vécu. Parce que je sais qu'on est tous dans le même cas de figure. Je prenais la Sainte-Seine avec de l'amertume. Non, mais vous voyez comment j'allais bien. Vous avez entendu? J'ai pris la Sainte-Seine, pendant 2 ou 3 dimanches, mais c'est quand même, pour moi c'était beaucoup. J'ai pris la Sainte-Seine avec de l'amertume. Comme un frère que j'aurais boxé avec joie. Et depuis ce jour, je prie tous les jours pour ce frère. Et je bénis Dieu pour ce frère. Parce que j'ai appris à ne pas lutter contre la chair et le sang. Et il fallait que je traverse ça. La Bible est catégorique. Bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés. Lucas rappelait tout à l'heure qu'il n'a rien dit. Jésus, sur le bois de croix, nous a donné un modèle. Il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Lui qui maltraitait ne faisait pas de menaces. Lui, le Fils de Dieu, qui en plus un jour, c'est presque comique, enfin, vous avez compris, sera le juge du ciel et de la terre. Mais pendant qu'il est venu comme sauveur, il n'a pas jugé. Est-ce qu'il aurait pu prendre une dérogation? Sérieusement, est-ce que Jésus aurait pu s'autoriser à prendre une dérogation pour juger? Bien sûr, ça, je ne pense pas que ça aurait contrarié les choses. Mais mes frères et sœurs, il ne l'a pas fait. Et la Bible dit que c'est un modèle, c'est un exemple. Et Seigneur, si tu permets que je sois affligé, eh bien merci. Vous allez le dire peut-être au début en serrant les dents. Merci Seigneur. Mais dites-le-lui. Moi, je l'ai fait ça. Je vous avais raconté une fois, quand je suis arrivé pasteur à Groyer, il y a une femme qui ne me supportait pas. Parce que pour moi, c'est comme si j'avais chassé l'ancien pasteur. Elle ne me supportait pas. Il n'y avait pas de musicien et je jouais de la guitare. Elle dit, j'accompagnais la guitare. J'essayais. Et cette femme dit, mais on n'a pas besoin d'un guitariste, on voudrait un pasteur. Et puis j'ai appris tout le mal qu'elle a dit sur moi. Et j'étais au téléphone. Vous savez, il y a des gens qui sont forts pour vous aider à comprendre les choses. Et j'allais me lever, je me rappelle, Et j'ai dit, je vais aller la voir. Et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Vous savez, on croit que ça nous fait du bien. Et puis j'arrive à l'angle de mon bureau, vous voyez, j'étais pas loin. Hein. Je me mets à genoux, je dis, non, ça va pas aller. Je me suis mis à genoux, j'ai ouvert la Bible et je l'ai ouverte volontairement sur 1 Pierre 3,7. Vous connaissez ce texte? On va le lire. Je l'ai ouvert, je le savais, je le connaissais. Il était dans ma tête, mais il fallait que ça descende de 40 cm. C'est pas grand-chose, mais c'est long parfois, 40 cm. 1 Pierre chapitre 3. Il y a tout un tas d'exhortations. On les verra mardi, on les a déjà vues, mais je peux vous dire qu'on les verra mardi. Ça commence au chapitre 1er, au verset 12, si je ne me trompe pas. Ouais, 13. Et ça finit, alors là, regardez, on va lire ce qui nous intéresse. Marie, 1 Pierre, au verset 1er, quand même, il est demandé certaines choses aux femmes. Alors, cette semaine, on me disait, mais pourquoi il est demandé aux femmes de se soumettre à leur mari? Pourquoi il est demandé aux maris d'aimer leur femme? Ça, on vous a déjà posé la question, pourquoi plusieurs fois, Marie, aimez vos femmes, au singulier. Marie, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous à vos maris. Alors, est-ce qu'un homme ne doit pas se soumettre à sa femme, etc. Est-ce qu'une femme ne doit pas aimer son mari? Bien sûr que si. Mais le problème de l'homme, c'est d'aimer, vraiment. Et le problème de la femme, c'est la soumission. Et chacun doit faire travailler sa part. Il y a plein de conseils, justement. Et regardez ce qui est dit. On aurait là la fin du verset 7. Qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas que ce verset. C'est tout le reste du premier chapitre à là. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez, mes frères et sœurs. Si je ne vis pas, moi je vous encourage à méditer les 3 chapitres de Pierre, mais vraiment et à vous arrêter sur chaque comportement que Dieu demande. Vous voyez quand il est dit par exemple au verset 17 du chapitre 2, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, il n'y a pas de roi, honorez le président de la République. Mais ne riez pas, hein. S'il vous plaît. C'est trop sérieux parce que les chrétiens sont dans des cursus de malédiction à cause de ces affaires. Il faut prier pour le président. Bien sûr que le président a fait voter des lois impies. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait eu un mandat maudit. Je prends un exemple parce qu'il faut que nous comprenions bien. Le prochain président, imaginez, écoutez bien, c'est sérieux, je l'ai reçu dans la prière. Imaginez que le prochain président propose une loi antisémite, c'est-à-dire que tout faire pour que les juifs repartent chez eux. Est-ce que vous pensez que ça peut se produire? Vous croyez qu'il sera béni, le président qui va faire ça? Il sera maudit. Et on doit savoir, bien sûr qu'on doit faire la différence entre le comportement que moi je désapprouve complètement. Ce sont des personnes que je ne supporte pas. Mais je prie pour eux tous les jours. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est un commandement. Je ne le fais pas par affection pour le président. Je le fais parce que Dieu nous demande de prier pour le président de la République. Est-ce que vous comprenez? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et si vous dites, ouais, le président, c'est ceci, c'est cela, laissez-moi vous dire que le diable, il va se frotter les mains. Oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord, moi ça m'est égal, en fin de compte, c'est pas important, ça c'est terrestre. Mais mes frères et sœurs, quelqu'un va me dire, vous êtes sûr qu'il faut prier pour les autorités? Mais mes frères et sœurs, c'est écrit, Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent, que c'est une bonne chose. On lit la suite. Et vous voyez, c'est ce qu'on verra mardi. Ces affaires-là. Donc, qu'il en soit ainsi, fin du verset 7, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez, on a vu ce qui attristait le Saint-Esprit, la méchanceté. Mais regardez, soyez tous animés des mêmes pensées. Alors, les mêmes pensées, ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est des mêmes pensées spirituelles, vous le comprenez bien. Des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça, c'est ce qui donne la bénédiction. Si quelqu'un ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Vous entendez, mes frères et sœurs? Vous voulez que vos prières soient exaucées? Vous voulez être une source de bénédiction? Ne rendez jamais le mal pour le mal. Jamais. Jamais. Surmontez toujours le mal par le bien. Bénissez au contraire. Regardez bien, regardez ce commandement. Je ne sais pas si nous. Franchement, je parlais de Joseph tout à l'heure, qui, j'allais dire le pauvre, mais pas si pauvre que ça, parce que franchement. Mais nous, quelle grâce, on a ce moyen extraordinaire de la parole dans notre langue. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, ça fait partie de notre vocation. Nous avons été appelés à bénir. Pourquoi? Afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, vous voyez, il n'y a pas que l'éternité, il y a aussi le temps sur la terre. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il préserve sa langue, vous voyez sa langue, toujours le problème de la langue, parce que ça commence toujours de toute façon. Sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal. Vous voyez, ça c'est une condition, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, parce que des fois on la perd. On la perd parce qu'il y a des combats, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez perdu la paix, mais recherchons-la, poursuivez-la, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles, parce qu'il n'y a pas que les nôtres oreilles, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bénissez, mes frères et sœurs, si vous voulez être une source, bénissez tous les gens. Seigneur, je te bénis, tu m'as mis dans cette ville, pourtant des fois on me traite de sale noire. Ça vous est déjà arrivé, les blacks? Ça vous est déjà arrivé? Bénissez la ville. Ne dites pas, cette ville, elle est pourrie, on ne m'a pas accueilli. Bénissez. Je sais ce que c'est. Et Dieu a permis que je sois missionnaire et d'être traité de sale étranger. Eh bien, merci Seigneur, parce que je savais qu'un jour ça me servirait. Quand on vous maudit, bénissez. Cette femme, moi, grouillée, j'y reviens, mais qui vraiment, j'étais jeune pasteur, c'était la première église que je prenais, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Maintenant, ça me fait presque rire. Pourquoi? Parce que ça me fait rien. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Je sais très bien que c'est comme un tremplin quand on me critique, moi, maintenant. Franchement, hein, ça arrive. Mais je sais ce que c'est cette loi. Bénissez. Et cette femme, j'allais partir, j'ai dit, tu vas lire ce texte. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. À l'époque, j'avais pas besoin des lunettes. Afin d'hériter la bénédiction. Et je me suis mis à genoux, Seigneur. Et je sais ce que c'est de commencer à bénir avec les enserrés. Et je me suis mis à genoux. Mais je l'ai fait devant Dieu. Seigneur, je bénis cette femme. Je la bénis, Seigneur. Et j'ai passé un moment à la bénir. Et puis moi, j'ai senti que ça se desserrait. Mais je le dis parce que je l'ai vécu comme ça. Et pendant 2 ans, tous les jours, je l'ai béni. Tous les jours. 2 ans. Un jour, elle m'appelle. Elle venait plus à l'église, bien sûr, parce que je lui avais quand même fait dire, bon, je sais ce que vous avez dit sur moi, mais ce n'est pas grave. Elle venait plus, bien sûr. Et au bout de 2 ans, elle m'appelle, Monsieur Gou, je voudrais vous voir, avoir un entretien avec vous. Je vais chez elle, c'était une femme qui était dans l'abondance en plus. Et elle avait un problème. Mais elle m'a dit, Monsieur Gault, je voudrais faire le point avec vous. Et alors elle m'amène dans son salon, et puis elle me dit, mais attends, avant je voudrais vous donner quelque chose. Elle m'amène dans un autre salon, et dans ce salon, il y avait un manteau, quand je m'appelle un coton, un blouson, un costume, des chemises. Monsieur Gault, j'ai eu à cœur de vous acheter ça. Et moi j'ai pensé à mon petit verset, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Attendez. Cette femme avec son mari, ils étaient vraiment dans la difficulté. Ils étaient riches, mais ils avaient une ferme. Ils n'arrivaient pas à la vendre. Et je vais les voir. Dans ce courant-là, elle voulait acheter une maison à côté de sa fille. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que tout se recoupe. Et elle me dit, oh, monsieur Gault, on n'arrive pas à vendre cette ferme. Ça fait des années qu'on l'a mis en vente. On n'arrive pas à la vendre. Mais j'ai dit, mais moi, madame... Un tel, Dieu sait qui c'est qui achètera votre ferme et Dieu sait qui c'est qui vous vendra la maison. Il le sait déjà. Vous le croyez? Oui, mais moi je crois. Eh bien, on va prier. C'était un lundi. Le mercredi, elle m'appelle. Monsieur Gault, vous ne le croirez pas. On a vendu la ferme et on a trouvé une grande et belle maison à côté de chez notre fille. Vous ne le croirez pas? Si, je le crois. Parce que Dieu bénit. Et cette femme, elle a demandé pardon. Et cette femme, elle a vu Dieu l'exaucer. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères, ça ne peut pas être plus clair. Et ne prions pas, à moins, pour demander pardon si c'est utile. Je demande pardon. Qui c'est que j'ai fait, à qui j'ai fait du mal? À lui, à elle, à Nicolas, le stagiaire. Eh bien, je vais l'appeler. Je vais lui écrire. Je vais lui envoyer un mail. Qu'importe. Mais de tout mon cœur, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui sont charnels, trop de chrétiens qui ne sont pas convertis. Le problème, il est là. Il est là, le vrai problème. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous faites partie de ceux qui maudissaient, qui est une source de malédiction, tout le temps en train de vous irriter, en train de critiquer, et lui, et elle, et celui-ci, et celui-là? Ne vous occupez pas, bénissez. Écoutez, vous le lisez comme moi ce verset? C'est une grâce, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y a quelqu'un qui veut hériter la bénédiction, là je pense qu'il y en a peut-être plus que deux qui diront amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut hériter la bénédiction? Mes frères et sœurs, eh bien bénissons. On va terminer avec, on y reviendra mardi, parce que vraiment c'est un sujet qui est long. Mais regardez. On va lire à verset 19 du chapitre 2. Rien que ces quelques versets. Si on prenait le temps de les méditer. Regardez bien. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est vrai que c'est pas marrant. Est-ce que c'est facile? Non. Mais la Bible dit que c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est sûr. Si on me traite de voleur, parce que j'ai volé, ben c'est normal. Mais si on me traite de voleur alors que je n'ai pas volé, c'est une épreuve ça. Et bien la Bible dit que c'est une grâce. Parce que ça travaille notre cœur et ça permet cet esprit de perfectionnement. Est-ce que vous le comprenez? C'est une grâce, vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, c'est que vous n'êtes pas converti. Je vous le dis franchement, si vous êtes converti, vous savez que c'est vrai. Joseph, il a dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu, il se trompe jamais. C'est une grâce. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous voyez, ça fait partie de notre vocation. Retenez bien ce mot. Quand il est écrit, vous avez été appelés à quelque chose, ça fait partie de notre vocation. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple. Un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et quand vous vous en remettez à celui qui juge justement, Dieu agit. recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et si vous vous combattez contre la chair et le sang, eh bien, moi je vais lui dire et je vais lui expliquer et attends que je le rencontre. Moi j'aime la vérité. Vous voyez, comme tout d'un coup on est... Mes frères et sœurs, mettez-vous à genoux et bénissez-les. Et dites, Seigneur, merci, ça ne m'a pas plu, ça m'a pas plu sur le coup. Mais Seigneur, merci, je l'ai béni. Et Dieu vous bénira. Parce que quand la bénédiction, elle, c'est bon, c'est technique ça. Mais si la bénédiction, elle sort de votre cœur, eh bien, le premier qui sera béni, ça sera vous. Pourquoi ? Parce que c'est des lois. Celui qui arrose, il sera arrosé. Ce sont des lois ça. Vous les maîtrisez peut-être pas bien, mais je peux vous dire que ce sont des lois. Quand vous mettez la main dans le feu, elle se brûle. Quand vous bénissez, c'est une loi. Quand vous le faites avec votre cœur, Seigneur, je bénis, je les bénis. Je les bénis tous. Je bénis cette ville, je bénis ce pays, je bénis mon foyer, je bénis ma femme, je bénis mes enfants, je bénis mes amis, je bénis mes ennemis. Oui, ces gens que tu as utilisés pour former mon caractère, je les bénis. Si Joseph avait dit quand je serai premier ministre en Égypte et que les frangins vont venir chercher du blé, ils vont comprendre. Eh bien, je peux vous dire que si Joseph avait parlé comme ça, il ne serait jamais sorti de sa prison. Parce que quand est-ce que c'est qu'on a pardonné ? Eh bien, quand on fait du bien. Quand ses frères sont arrivés, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a donné à manger. À quoi on reconnaît quelqu'un qui bénit ? Eh bien, il donne à manger à ses frères.